jour en Afrique.
Bonjour Sanoum Baye.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous avez été haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement et vous venez d'écrire un livre qui est un véritable cri d'alarme qui s'intitule « L'Afrique au secours de l'Afrique » aux éditions de l'Atelier. Vous prenez une véritable révolution des esprits en fait. Hein. L'Afrique doit d'abord compter sur elle.
Absolument, absolument. Une révolution, une modernisation des esprits. Parce qu'il y a un héritage lourd, historique, qui fait que le noir n'a pas plus de perspective historique, ni de foi en lui, ni de confiance en l'avenir. Donc, il faut restaurer ça pour pouvoir... L'économique, c'est bien, mais ce sont ces éléments subjectifs qui comptent le plus. Sans la résolution de ce genre de problème, l'économie ne peut pas suivre.
Alors vous parlez de politique, vous parlez d'économie, vous parlez aussi de la chose militaire. On vient de parler du retrait des soldats français d'Afrique. Notamment, vous écrivez, vous posez la question, l'Afrique a-t-elle en dehors des solutions étrangères, des alternatives pour faire face aux problèmes sécuritaires? À quand l'armée de l'Union africaine?
À quand la solidarité? On en revient au problème subjectif, pas au problème quantitatif. Quand les Africains seront en mesure d'être solidaires, ils pourront se constituer une armée. Hein? Ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est pourquoi l'Afrique compte, par exemple, en RDC, la force d'intervention des Nations Unies la plus importante du monde.
Et on peut même dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est la raison d'être, en quelque sorte, des Nations Unies. Hein?
Absolument, hélas. Et puis alors, pas seulement des Nations Unies, mais prenons les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, avec les pays asiatiques, les pays latino-américains, sont profités de la dernière embellie des matières premières pour rembourser leurs dettes. Maintenant, les institutions de Bretton Woods, avant le resserrement de la crise de la dette que nous venons de connaître, n'avaient plus vraiment comme clients que les Africains à qui ils pouvaient continuer d'imposer leurs conditions.
Première étape de notre voyage africain, Sanoum Baye, Madagascar. Madagascar secoué par une crise politique cette semaine, la capitale Antananarivo notamment. Plus de 30 personnes ont trouvé la mort dans des affrontements lundi en marge d'un grand rassemblement organisé par le maire de la capitale pour dénoncer la politique du président malgache. Reportage de Nicolas Champeau.
C'est un acte de banditisme malade. C'est malheureux.
De nombreux malgaches déplorent le saccage de leur capitale, même si certains comprennent le sentiment de révolte qui habite les pillards, malgré le déploiement d'importants dispositifs anti-émeutes dans la plupart des points sensibles de la capitale. Des citoyens, souvent armés de bâtons, se sont constitués en comité de vigilance, comme nous le raconte ce jeune homme, dans le quartier des ministères, à deux pas d'un hôtel 5 étoiles.
Tous les jeunes du quartier se sont mobilisés pour aider les policiers à protéger le quartier. Dès qu'il y a un mouvement populaire, il y aura toujours des dégâts collatéraux, quoi. Donc il faut une solidarité contre ça, puisque ça ne fait pas partie du mouvement populaire, je pense.
Sur l'avenue de l'indépendance, qui a vu les pillages les plus spectaculaires, certains appellent le président à la démission. D'autres, énervés par le désordre, se prononcent en faveur du dialogue.
Il faut que les deux antagonistes essaient de trouver une solution.
On a les processions pour les retours de sécurité. En général,
la solution, c'est la réconciliation entre les deux, je crois.
Ils devraient partager le pouvoir ensemble?
Peut-être.
Le maire, Angie Radzouel, a posé des conditions avant d'entamer des négociations avec le président. De sources diplomatiques, il est convaincu que Marc Ravalomanana a recruté des mercenaires et souhaite qu'ils soient expulsés du pays, car il est convaincu que ces derniers sont responsables de la mort de deux de ses partisans.
Dans l'actualité africaine, a souligné aussi le décès à l'âge de 98 ans de Mamadou Dia, l'ancien premier ministre du président sénégalais Léopold Sédar Senghor, dont il a fini par être un adversaire politique. Mamadou Dia avait été condamné à la déportation en 1963 après s'être opposé à une motion de censure. Il avait été gracié en 1976. Et puisque nous parlons du Sénégal, je vous rappelle que lundi, le ministère de l'Intérieur a accusé Macky Sall, l'ancien président de l'Assemblée nationale, de blanchiment d'argent. Suite d'une semaine d'actualité Et là, nous parlons de l'Afrique en compagnie de Sanoum Baye, auteur de L'Afrique au secours de l'Afrique. Dans votre livre, qui est encore une fois un pamphlet, un cri d'alarme, Sanou, vous parlez des dirigeants africains et vous en parlez sans tendresse aucune. Pour nombre de dirigeants, je vous cite, du continent, le seul objectif qui vaille est l'enrichissement personnel, au nom de quoi ils se font volontiers les intermédiaires et les collaborateurs du capitalisme international.
Eh oui. Bon, c'est bien d'ailleurs qu'on prenne le cas du Sénégal, vraiment c'est un cas typique. C'est-à-dire au lendemain des indépendances, des militants comme moi, nous avons pensé que nous avions hérité au lendemain des indépendances de dirigeants incapables. C'est-à-dire vraiment c'est des militaires qui prennent le pouvoir par la force. Mais on s'est dit que ça c'est la soldatèque et puis maintenant on se rend compte qu'avec l'arrivée au pouvoir d'intellectuels, parce que Wade quand même est un avocat et un économiste, qu'en fait cette façon d'exercer le pouvoir est culturelle.
Il y a une sorte de fatalité.
On prend le pouvoir pour s'en emparer, hein, pour en jouir et en faire jouir sa famille. Prenons le cas du Sénégal. Aujourd'hui, c'est le cas de Macky Sall. Avant, c'était le cas d'Idriss Seck. Avant ça, c'était le cas de Farah Ndiaye. Quiconque est le bras droit de Wade est sur la rampe de lancement d'elle départ. Parce qu'en fait, ce qui intéresse le Wade, c'est de placer son fils. On est en plein ordre monarchique, là.
Mais alors, comment va-t-on sortir de ce cycle infernal au Sénégal ou ailleurs, d'ailleurs? Globalement, en Afrique, il y a des élites.
Il y a des élites. Mais justement, regardez le rôle de cette élite. Les élites, c'est quoi? C'est les dirigeants, hein, et les politiques. Le rôle de l'élite, cette conception du pouvoir, a fait que le peuple, il y a une rupture totale entre le peuple et l'élite. Le peuple ne peut pas du tout s'identifier à l'élite. Donc il y a une rupture totale. Donc maintenant, il faut une conception, une nouvelle conception du pouvoir. Et cette conception procède de ce que j'appelle une révolution, une transformation totale des mentalités. Et c'est de là où on pourrait dire que bon, il faut un déclic. Et c'est là, dans le livre, où j'ai dit que peut-être l'élection de Obama constituera ce déclic. Parce qu'il y a une telle absence de perspective historique, de confiance en soi, de foi en soi, qu'en fait l'exercice du pouvoir est un exercice individuel. Mais il se trouve que maintenant, avec l'élection d'Obama, l'Obama est l'exemple vivant qu'on peut avoir, être noir, avoir une perspective historique, une foi en soi et en l'avenir.
D'une semaine d'actualité en Afrique, toujours Sanoum Baye avec le procès Lubanga, l'ancien chef de l'Union des Patriotes Congolais en Ituri, donc dans l'est de la RDC. C'est le premier procès de l'histoire de la Cour pénale internationale, compte rendu de la première audience, Sarah Tisser.
Pour la CPI, c'est un grand jour. Plus de 10 ans après l'adoption du traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, elle tient enfin son premier procès. L'accusé, Thomas Lubanga, est depuis 3 ans déjà dans sa cellule et voilà 2 ans que les charges contre lui ont été confirmées. Un grand jour donc, d'autant que le procès a failli ne pas se tenir. Il devait s'ouvrir en juin dernier, mais les juges ont alors décidé de suspendre toute la procédure. Ils reprochaient au procureur de détenir plus de 200 documents obtenus auprès d'ONG et de l'ONU sous le sceau de la confidentialité. Ils exigeaient de pouvoir les consulter et d'en faire bénéficier la défense. La libération de Thomas Lubanga a même un moment été envisagée. Il a fallu 5 mois pour résoudre la crise. Des solutions ont été trouvées pour partager la quasi-totalité de ces documents tout en protégeant les sources. Thomas Lubanga est jugé pour enrôlement et utilisation d'enfants soldats. Le bureau du procureur a prévu d'appeler 34 témoins à charge avant que la défense n'appelle les siens. 93 victimes seront aussi représentées par des avocats. C'est une première dans un procès international, une nouveauté parmi d'autres. À défaut de présenter un accusé de haut rang, ce procès doit en effet mettre en place les pratiques de la Cour. Premier prisonnier de la CPI en 2006, Thomas Lubanga a pris l'habitude d'essuyer les plâtres.
Suite d'une semaine d'actualité, alors la justice internationale en marche, ça c'est un progrès, non?
C'est un progrès. J'ai seulement 3 observations à faire sur la Cour pénale internationale. D'abord Lubanga. Comme Kony, comme Kunda, vraiment on en a marre de ces sanguinaires, de ces seigneurs de la guerre qui armés sont là à tuer, massacrer, violer, semer la panique et prendre ça pour le pouvoir. Ça, on en a marre. Donc, l'impunité, il faut que ça cesse. Pour ça, c'est bienvenu. Bon, ma deuxième remarque concerne les dossiers qui sont instruits en ce moment par la CPI. Mais il y en a 12, et tous les 12, c'est les Noirs.
Ouais.
C'est des Africains. Et l'Irak, hein, et la Tchétchénie. Il n'y a que les Noirs qui sont des criminels de guerre. Donc, il ne faudrait pas quand même que cette Cour de justice internationale ne s'applique sur les maillons faibles. Les maillons faibles, il faut aussi que les autres payent. Et les autres. Ma troisième remarque, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas été reconnue par les États-Unis, l'Inde, Israël et puis la Russie. Mais là, en fait, je suis réconforté parce que quand on voit comment Israël se démêle, hein, pour qu'on ne condamne pas ces
crimes de guerre remontent à quelques années.
Donc, on voit quand même que la CPI a une influence certaine.
Suite d'une semaine d'actualité avec cette partie africaine commentée par Sanoumba. Il y a un mot de conclusion, Sanou, sur l'Afrique en général. Cette Afrique au secours de l'Afrique.
L'Afrique.
Pour reprendre le titre de votre livre.
Absolument. Il faut que l'Afrique vienne à son propre secours et pour cela, il faut la solidarité. Le maître mot. On vit une crise. La seule solution à cette crise résoudra puisqu'il n'y a pas de gouvernement économique mondial, ce sera au niveau des solidarités régionales. Hein, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique latine, on a vu le Japon, la Corée se remettre ensemble avec la Chine. Hein. Il faudrait absolument que les Africains aussi sachent que c'est dans leur solidarité, dans leur unité, que réside leur salut.
Merci Sanoumba, on aura l'occasion de reparler de l'Afrique en votre compagnie. Votre livre en tout cas s'intitule « L'Afrique au secours de l'Afrique », il est publié aux éditions de l'Atelier.
Semaine d'actualité.